Ce matin, sur le plateau qui parle, Karine Musel, paysagiste diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille en 2009. Et son travail de fin d'études, c'était « La forêt demeure mais ne persiste pas, un projet de paysage pour le plateau de Mille Vaches ». Elle avait passé un an à étudier notamment les monédières, Perret-Bélair, une petite route en Corrèze, en Haute-Corrèze, entre Lannocody et La Saulière, et puis Meymac et ses alentours, la tourbière du Longéroux, le mont Bessou. Son travail est disponible au parc naturel régional Mille Vaches en Limousin, pour ceux qui s'y intéresseraient. Son programme est utopique, elle assume ça. Elle imagine qu'on pourrait, après les coupes rases, semer des fleurs et ainsi redonner de la vie et de la beauté à ces endroits à l'allure dévastée, plein de petites choses comme ça qui ne se font pas du tout, mais qu'elle imagine. Karine Musel est revenue sur le plateau de Mille Vaches, invitée par Pivoine, Quartier Rouge et La Pommerie lors de la semaine cartographie qui s'est déroulée récemment. Elle nous donne donc son regard extérieur sur les paysages du plateau de Mille Vaches.
J'ai essayé de réfléchir, à prendre plaisir, à observer 4 sites pour arriver à développer des actions simples. Il y avait les massifs des Monédières, par exemple, qui est une très belle porte, je trouve, d'entrée sur le plateau. On est vraiment sur les contreforts. On a aussi, du coup, un point de vue sur les régions alentours. La commune de Perret-Bélair, aussi, qui profite d'un cadre exceptionnel dans elle est en situation de grand cirque. Du coup, elle a aussi une visibilité. Elle a la chance de pouvoir profiter de cette impression d'immensité du plateau. Autre site d'étude, j'avais là pour le coup un vrai paysage de route entre Lannocody et La Saulière. Une route très fine, c'est 5 minutes en voiture et puis c'est toute une diversité de paysages proches. C'est-à-dire qu'en bord de route, on a aussi bien des parcelles qui sont plantées, enrésinées, que des alignements de hêtres par exemple, de la pâture. Et le fait de traverser en voiture, ça apporte vraiment un rythme.
Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons le paysage, c'est beaucoup en voiture, il faut bien reconnaître.
Oui. Bah là, on est sur quand même un territoire qui est très étendu. On est obligé de le traverser de manière véhiculée. Enfin, obligé, non. Mais il se pratique beaucoup en voiture. Quand on traverse entre Clermont-Ferrand et Limoges, on est dans une forêt qui est assez haute, qui est vraiment présente, qui est plutôt dense, plutôt foncée. Et moi, ça m'a interpellée par rapport à d'autres paysages que j'ai traversés. Et j'ai envie d'aller m'y frotter un petit peu pour voir sur quelle diversité future on pourrait réfléchir.
Tu nous as parlé pour l'instant de 3 des 4 sites, je crois.
Oui, il en manque un. Il manque la tourbière du Longéroux, le mont Bessou et Meymac. La tourbière du Longéroux, c'est quand même une des plus belles d'Europe. Le mont Bessou, le point culminant, forcément. Et puis Meymac, une porte d'entrée sur cette entité paysagère. Et une commune, du coup, qui forcément se tourne vers le sud pour profiter du soleil, mais qui se met à distance aussi de deux potentiels géographiques incroyables. Et du coup, j'ai essayé de retravailler une idée de parcours, peut-être.
Meymac qui se met à distance de deux potentiels géographiques, c'est-à-dire
qui se met à distance du mont Bessou. Donc du coup, un des points hauts où on peut appréhender le territoire avec une vue d'ensemble, ce qui est quand même assez rare, je trouve, sur le plateau, où on est assez vite, même quand on est sur un point culminant, on est souvent dans la forêt, et du coup, on n'a pas conscience de cette immensité-là. Et puis la tourbière du Longéroux, ça m'a vraiment marqué comme espace, comme paysage, où on a l'impression qu'on est projeté ailleurs.
Alors, sur ces 4 endroits, sur le plateau en général, et bon, sur ces 4 endroits en particulier, qu'est-ce que tu as fait, en fait? Qu'est-ce que tu proposes? Tu parlais de travailler avec les habitants, qu'est-ce que...
Alors, j'ai rien fait du tout. C'était un projet qui était complètement utopique. C'était dans le cadre d'un diplôme. Donc, logiquement, je dois valider des acquis, donc apporter des réponses techniques, et montrer que j'arrive à manipuler des stratégies végétales, de la forme. Moi, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'interroger un espace. Quand je parle de forêt privée, c'est pas l'ensemble du territoire, mais c'est quand même une prédominance du territoire. On a quand même un gros pourcentage de la terre que je trouve qui est plantée, de manière spontanée ou volontaire. Je voulais m'autoriser à réfléchir sur ce type d'espace-là. Donc j'ai rien fait, je n'ai fait que de la proposition, en espérant...
C'est déjà ça ?
Oui, mais c'était la volonté, à la base, de me dire, voilà, je suis sur un espace un espace de production sur lequel, logiquement, je n'ai aucune... aucune possibilité d'action concrète, bien qu'il y ait des institutions ici, comme par exemple le parc naturel régional, qui peut aussi s'autoriser à réfléchir dessus, et qui le fait. J'ai énoncé des verbes d'action qui sont entailler, fleurir, connecter et nourrir.
Ah, alors, vaste programme, vas-y, je te laisse développer.
En fait, j'avais envie de réfléchir plutôt à des actions qu'à des espaces et à voir assez ensuite finement et justement où placer ces actions-là, mais des actions qui paraissent comme ça peut-être anodines, mais qui pourraient avoir un impact maximum. Donc entailler, par exemple, c'est aller couper dans la forêt. Alors ça, c'est pas forcément possible.
Attention, mais... attention, ouais. Tu vas inquiéter beaucoup de monde là. Comment ça, aller couper dans la forêt ?
On a une grande partie de la forêt aussi qui est pas, qui maintenant qui se regroupe avec des grands propriétaires, mais on a aussi beaucoup de petits propriétaires. Et du coup, en regardant les cadastres, je me suis rendu compte qu'il y avait des parcelles qui étaient très fines. C'est quand même assez atypique d'avoir ce qu'on appelle une forêt timbre-poste. Donc c'est un hectare. Et je me disais qu'on a bien eu la volonté de planter. Si aujourd'hui on avait la volonté de couper, on pourrait réfléchir à la façon de couper. Et du coup, d'essayer d'orienter, par exemple, des entailles pour à la fois créer du parcours, comme je disais, entre les pistes forestières ou des chemins de grande randonnée. Du coup, créer des ouvertures dans lesquelles on a envie de s'engager. Donc moi, j'ai essayé de travailler à la gestion aussi de ces ouvertures-là. Et c'était aussi une façon de, bah, enlever des arbres, c'est réfléchir à la circulation de l'eau. Parce que les arbres captent beaucoup les circulations de l'eau. Et du coup, travailler à comment on réhydrate, par exemple, les tourbières. C'était pas qu'une volonté esthétique. C'est en écho avec l'action de connecter, qui par exemple, là, s'interroge sur les espaces qui sont laissés disponibles par la couverture végétale, donc souvent par la forêt. Et j'ai remarqué qu'il y avait peu de landes, peu de zones de landes. Et c'est pourtant, ces espaces-là sont très intéressants pour la biodiversité. On parle en paysage de zone refuge, c'est-à-dire qu'on a des zones où la diversité végétale et animale peut s'exprimer, peut circuler. Donc c'est ouvrir des espaces et connecter des espaces qui sont déjà ouverts. Et révéler par exemple le territoire de l'eau, qui a tendance à être recouvert, à être dissimulé.
Et fleurir, alors, belle intention aussi.
Complètement anecdotique, mais qui pourrait être...
Pas tant que ça.
Par exemple, c'était réfléchir à la diversité des plantations, notamment forestières, et de se dire qu'on pouvait aussi planter du bois noble, mais feuillu. Alors oui, ça pousse plus doucement, mais ça a quand même une valeur. On pourrait souligner comme ça, par exemple, les pistes forestières et avoir un parcours qui pourrait se révéler au moment du printemps avec la floraison. Et puis, les espaces qui m'ont beaucoup interrogée aussi étaient les espaces qui étaient brutalement vidés de leur contenu, les coupes rases, par exemple, où je trouvais qu'il y avait ça révélait aussi un manque... ça, c'est mon point de vue personnel. On rentre dans un rapport très brutal à son sol, qui pourtant est notre socle de vie. Et la façon de faire disparaître une parcelle aussi brutalement, c'est un choix financier. Mais du coup, pour ceux qui restent en face de ce paysage-là, comment arriver à penser le temps de l'attente de la nouvelle plantation, par exemple, ou que deviennent ces espaces qui sont vidés du jour au lendemain, et d'où la proposition du fleurissement, par exemple. Ça peut avoir un impact visuel quand on se promène sur le plateau, et d'un seul coup, d'avoir 4 hectares de champs digitales. C'est un événement temporaire, mais qui pourrait avoir une autre valeur que juste le fleurissement. Et enfin, il y avait une dernière proposition. Là, du coup, on se situe dans une temporalité beaucoup plus longue, parce que là, c'était des actions qui s'attachaient au présent, qui pourraient être, on pourrait imaginer qu'elles puissent se faire dès demain. Alors,
ça s'est fait quelque part, ce que tu proposes ?
Non.
C'est un programme utopique éventuel ?
Ouais. Mais qui, j'espère, aura écho et donnera envie à des personnes de s'en saisir. Donc c'est un travail qui est disponible. Et moi, ça me plairait beaucoup de pouvoir continuer à échanger et du coup d'étoffer ce type de proposition-là. L'idée de nourrir, c'était de nourrir son sol aussi, par rapport à l'idée d'être respectueux d'un sol qui nous porte. L'enraisiner, c'est pas forcément être très... c'est pas forcément bénéfique pour lui. C'est comme toute agriculture, hein, aussi, d'être dans l'agriculture où on limite par exemple les intrants, où on porte attention à ce sol-là. Et du coup, l'idée, c'était de développer, de diversifier plutôt la culture et d'être sur un repos de la terre et puis de proposer des cultures qui pourraient enrichir le sol, comme par exemple les engrais verts.
Quels engrais verts que tu as pensé un petit peu à précisément ça ?
J'avais tout un panel de plantes possibles, aussi par rapport à l'impact que ça pourrait avoir visuel, et puis à l'intention de produire ces cultures-là. Donc il y avait soit l'engrais vert qui servirait à la terre, mais aussi tout ce qui est plantes fourragères, tout ce qui est agrocarburant. C'était autant de propositions pour réfléchir à autre chose que ce qui est planté aujourd'hui. Mais comme dans tout type d'espace, hein, tout type de monoculture, interroger une diversité.
Les arbres sont déjà des agrocarburants en partie. Hein.
Ouais.
Avec, pas pour les voitures, mais pour des chaufferies.
Oui.
Des grosses chaufferies, c'est déjà un peu le cas. Ces questions-là, les impacts paysagers, des coupes rases, et puis les impacts sur la pauvreté, l'appauvrissement du sol, c'est des enjeux importants pour les habitants. C'est un lieu de tension entre propriétaires forestiers, coopératives forestières, marchands de bois, ce qu'on appelle en gros la filière bois, et puis des naturalistes, des gestionnaires forestiers qui voudraient faire autrement. Tu es au courant que tu interviens dans une région où ce dont tu parles sont des sujets assez brûlants, et du coup, comment tu te places par rapport à ça? On n'est plus du tout dans l'utopie.
Bah déjà, je m'autorise à donner mon point de vue. Je ne prends pas parti. Je m'autorise à proposer un point de vue extérieur, puisque j'ai aussi une connaissance d'autres territoires. Et oui, c'est une zone de friction. Enfin, c'est un sujet de friction. Mais moi, je trouve que c'est très important que les gens qui vivent leur paysage le prennent en charge. Et là, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a un territoire qui est... Il faut que je fasse bien attention à mes mots. Mais, qui est aménagé par des personnes qui sont souvent extérieures. Je pense que c'est ce qui crée conflit. Pour moi, un paysage de production, il ne peut pas être pensé que par ceux qui le produisent. Je pense qu'en tant que paysagiste, moi, je me situe comme levier et comme soutien à des initiatives locales, individuelles, associatives, par mon regard, avec des regards locaux, de gens qui vivent vraiment ces territoires-là et qui, je pense, ont quand même leur mot à dire sur ce qui s'y passe, même si malheureusement, ils ne peuvent pas le produire.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais vous n'ignorez pas que nous sommes dans un régime de propriété privée, que la propriété privée, c'est sacré. C'est bien joli, toutes vos propositions, mais ça va à l'encontre, en fait, du principe de propriété privée.
J'en ai bien conscience. Et c'était là, pour le coup, sur ce travail-là, donc c'est un travail que j'ai fait en 2008-2009, hein. C'était déjà il y a presque 5 ans. C'était une vraie volonté d'aller me confronter à un territoire sur lequel, logiquement, j'ai aucune action. Ce travail-là a pour moi aujourd'hui une valeur de manifeste. Il a posé les bases de ma pratique. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à aller me confronter à des espaces qui m'échappent. Et qui sont du coup des espaces vraiment producteurs forestiers ou,